Jeff Diva.
La parole est à présent à notre public, Lala Touré. Est-ce qu'il y a des questions et des réactions?
Merci Mokhtar, vous l'avez dit, nous voilà la partie entretien avec le public sur le thème « Comment relever le défi de l'autosuffisance alimentaire dans les pays du Sahel ?» À titre de rappel, nous avons dans le public les étudiants de l'université d'Andiko d'Ankoulodo de Maradi, les membres du Conseil régional de la jeunesse de Maradi, les membres du mouvement Les Scouts du Niger, les collectifs régionaux des organisations de la société civile et des syndicats pour la sauvegarde de la patrie de Maradi. Ensemble, nous disons « Maradi, 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 je ne vous entends pas. Maradi, allez, Maradi, Maradi, Maradi. » Et comme vous l'avez dit, il y a des questions, il y a aussi des contributions. Nous allons partir avec la première vague. Et le premier intervenant, c'est Danerto Abdou. Il est de Côte d'Aïp.
Quand j'ai entendu M. Ousmane Abdou parler, j'étais vraiment content et j'étais rassuré. Et qui parle des aménagements, parle de culture de contre-saison. Et je sais que c'est le grand salut pour le Niger avec la culture de contre-saison. Mais j'ai deux petites questions à poser. Et la première à M. Ba et la deuxième à M. Noujangorzo. Dans les recherches, sera-t-il possible de nous trouver des semences que quand la pluie tombe, et que nous sommes, que ça résiste, même si on prend un temps avant que la pluie tombe. Puisque le plus gros problème, nos meilleures semences sont brûlées ou sont parties à l'air, parce que dès qu'on sème, la pluie tombe, on sème, on prend un temps sans la pluie, donc il faut reprendre. Et c'est les meilleures semences qu'on met en premier lieu. Est-ce qu'on peut trouver dans les recherches des semences où, une fois la pluie tombée et qu'on sème, que ça reste? Et la deuxième question, c'est nous utilisons les mêmes champs pendant plus de 50 ans. Dans le temps, nous mettons les champs en jachère. Maintenant, la jachère est impossible. Pourquoi? Parce que dès qu'on fait une année, deux années sans semer, vraiment, vous voyez ce que ça fait avec la famille qu'on supporte. Maintenant, comment trouver un mécanisme pour que ces champs-là, pour les rehausser, pour que ces champs-là résistent, pour que ces champs-là soient utilisés chaque année, mais avec un système qui va les faire remonter, puisque la production, comme c'est qu'il a eu à dire tout à l'heure, disait que ce qu'on produit sur un hectare, est-ce qu'on ne peut pas trouver un mécanisme pour que ce même hectare-là nous produise beaucoup plus? Je vous remercie.
Je m'appelle Louis Sani, je suis enseignant, donc je fais partie donc du mouvement de soutien pour les activités du CNSP au niveau régional. Quand on dit lutter contre l'insuffisance alimentaire, il s'agit de voir maintenant comment mettre la terre et l'eau en valeur pour produire beaucoup. Alors, si nous prenons le pays de l'AES, en majorité, l'agriculture s'est faite de deux manières. Il y a la culture pluviale et la culture donc irriguée ou maraîchère, si vous voulez. Donc, pour la culture pluviale, le problème, c'est quoi? C'est que nous sommes, le Sahel tout entier est soumis aux aléas climatiques. Maintenant, la deuxième partie, la culture irriguée. Et selon beaucoup de spécialistes, on a entendu sur beaucoup de médias, le Niger est l'un des pays les plus riches en eau souterraine. Pour preuve, quand vous prenez la région du Goulbi, de Goulbi de Maradi, il suffit de creuser 5 mètres ou 2 mètres, vous avez de l'eau. Donc on peut faire du forage. Même ici, là où cette université est implantée, il suffit de creuser 20 mètres et vous avez de l'eau. Alors, pourquoi ne pas intensifier, n'est-ce pas, la culture irriguée, n'est-ce pas, pas au dépend de la culture pluviale, mais la revaloriser, sensibiliser les gens à accepter cela et nous allons voir ce que ça va donner.
Merci Monsieur Laoli Saini. Je rappelle que vous êtes enseignant. Nous en venons maintenant à Maître Houd Mahamadou, président du CRSP.
Il y a deux ans de cela,
je me suis procuré un champ de 11 hectares que j'ai voulu mettre en valeur. Un, je ne savais pas comment. Il fallait pour un débit m'associer avec deux de mes frères qui puissent m'aider. On injecte plus d'un million dans le champ et à la fin, on n'a rien. On n'a pas les 1 million, on n'a aucune production. Et on ne sait pas exactement à qui s'adresser pour y remédier. L'année qui suivait, j'ai vendu le champ. Je continue. Oui, j'ai vendu le champ parce que je me dis, si je continue comme ça, je ne pourrai pas atteindre l'objectif recherché puisque je n'ai pas quelqu'un chez qui je vais me plaindre ou quelqu'un vers qui je vais demander comment m'assister pour valoriser ce que j'ai. Alors que si ça venait à être produit, ça pourrait être bénéfique à moi, à ma personne et certainement à la communauté dans laquelle le champ est cultivé. Donc, pour parler, moi je mets surtout l'accent sur les institutions qui ont en charge cette question d'agriculture-là, cette question d'autosuffisance alimentaire, qu'elle se valorise, qu'elle se mette, qu'elle s'active.
On va donner la parole à présent à un étudiant pour une question. Maman Saradi.
Quand on parle de l'autosuffisance alimentaire d'un pays, donc la question de la jeunesse doit intervenir. Parce que, quels que soient les moyens et les systèmes qu'on dispose, donc si nous n'avons pas une jeunesse mobilisée, donc on ne peut pas cultiver. Parce que si on prend l'exemple de la jeunesse d'aujourd'hui, malheureusement, la jeunesse d'aujourd'hui a été prise par une vie de luxe. Elle ne veut pas travailler. Il y a, par exemple, des étudiants donc, qui ne veulent pas cultiver. Parce que je sais que mon papa est un cultivateur. Mais parce que je suis un étudiant, donc je veux dire que moi, mon statut ne me permet pas donc, de cultiver. Je vais cesser la culture. Alors que ce n'est pas bon. Donc, quand on veut atteindre l'autosuffisance alimentaire, on doit aussi réaliser les barrages de Kandaji. Donc, la construction des barrages de Kandaji doit être réalisée. Et normalement, ces barrages doivent être réalisés dans les quatre côtés du Niger.
On va aller à présent avec la première étudiante, Salima Sani Labo.
Moi, c'est une question que j'ai. Face à la question d'inondation, que pensez-vous de la production agricole de ces trois pays du Sahel, le Niger, le Mali et le Burkina, surtout sur la production du riz au Niger?
Ok, on va prendre un autre étudiant, Ahmadou Seydou.
J'ai une question à poser à Dr Ousmane Abdou sur le contenu de la grande irrigation. Comme nous n'avons pas eu la chance de voir le contenu de ce programme, et la grande irrigation, est-ce qu'elle sera utilisée par l'État? C'est-à-dire, c'est l'État qui va recruter des gens, de jeunes, pour les mettre sur le terrain pour cultiver, pour qu'ils puissent avoir de l'emploi, ou bien on va irriguer les périmètres pour les partager à la population afin de l'utilisation? Donc, c'est ça ma question.
Voilà, c'était là la première série de questions qui seront répondues par nos invités sur le plateau. Marina Mokhtar.
Oui, merci beaucoup Lala. Retour à présent dans ce studio avec Ousmane Abdou. Ousmane Abdou, comment promouvoir l'appui, conseil et assistance aux producteurs? Tout à l'heure, un intervenant disait qu'il avait acheté un champ à 1 million la saison prochaine. Il a déjà vendu, il n'a rien produit, il a vendu le champ. Voilà, comment faire pour produire l'appui, conseil et assistance aux producteurs?
Merci de cette quand même importante question qui mérite des éclairages. Et là, je vais dans un premier temps aborder le système semencier qui a vécu et qui malheureusement a dégringolé au Niger. Voyez-vous, dans les années 70, avec l'appui de certains projets, il y a eu la création des centres semenciers. Et je crois que si nous prenons le cas de Maradi, on a pratiquement même un centre semencier qui est à Kourougoussou, et on a donc un centre de CFJA donc, qui est à Kegel. Ces deux centres-là, c'est en réalité pour créer les conditions de production et de fourniture de semences de qualité. Et là, le schéma, c'était quoi? Quand l'INRAN, qui est l'Institut national de la recherche agronomique, crée une variété et que cette variété se révèle éprouvée en milieu paysan, donc elle transmet cette variété-là à la Direction générale de l'agriculture qui dispose donc d'une ferme semencière de base qui est localisée à Lossa dans la région de Tillabéri pour produire la semence de base qui est la G4. Parce que là, l'INRAN crée, donc c'est des variétés, donc des pré-bases G3 ou G4 qui transmet donc à la ferme de Lossa. La ferme de Lossa a la responsabilité...
La ferme de Lossa, ça se trouve où?
Comme je disais tantôt, c'est une ferme qui est localisée dans la région de Tillabéri, donc dans la commune de Courfeuille.
À l'ouest du pays.
À l'ouest du pays. Donc, cette ferme a la responsabilité d'alimenter les quatre centres régionaux dont nous disposons. Nous avons un centre de multiplication de semences dans la région de Dosso, qui n'est pas loin de Niamey, qui est un centre de Guéchémé. Je parlais de Kourougoussou dans la région de Maradi, mais on a un centre aussi de Doukoudoukou dans la région de Tawa. Et un centre de multiplication de semences dans la région de Zender, dans la partie sud, donc dans le département de Magaria, donc qui est aussi en Gualgamji. Donc voilà un peu le schéma semencier qui existait depuis dans les années 70-80. Et on a adossé des CPT-CPR pour la formation des jeunes agriculteurs au niveau de toutes les régions. Donc c'était pour créer des pôles, des techniciens assez avertis pour la production agricole. Et en termes de formation, si hormis l'université, on a l'IPDR qui formait donc également des encadreurs pour le monde rural. Et actuellement, moi, je m'en charge d'une direction de promotion des filières et des chaînes de valeur agricole à la Direction générale de l'agriculture. J'ai un certain nombre d'enseignants qui étaient recrutés. Ils étaient agronomes. Entre-temps, il n'y a pas de recrutement de l'État. C'est après, quand ça a relancé, donc finalement, ils ont été recrutés. On est ensemble.
Professeur Bawa Ibrahim, tout à l'heure, un intervenant avait posé la question, à savoir le déséquilibre entre la forte pression démographique et les ressources foncières disponibles. Que faire pour rendre disponible la terre et comment faire pour que la jeunesse occupe la terre?
Ok, merci. D'abord, je dirais que le problème foncier, c'est un problème important. Donc, quand j'ai dit par famille, en moyenne, 2 hectares, c'est vraiment bloqué. Au niveau des villages, on pense que les villages sont même collés. On n'a plus de possibilité de faire augmenter la production par l'extension des champs. Ça, c'est de plus en plus difficile. La question des jachères, vous en avez parlé, ce n'est plus possible. Alors, il faut aller dans un élan d'intensification ou de semi-intensification de la production. Comment peut-on aller augmenter la production dans la petite surface avec des aménagements? Il y a des itinéraires techniques qui sont en train de développer. Aujourd'hui, en tant qu'ONG avec le groupe de mes partenaires, nous travaillons par exemple, nous avons plus de 2500 parcelles de démonstration au Niger sur des technologies agroécologiques éprouvées et un enchaînement qui permet de multiplier par 2, par 3 les rendements. Voilà. Alors, je réponds aussi à la question sur les semences. Dire que aujourd'hui, cultiver un champ, produire, revient à un programme. Tout producteur, je reprends à mon frère aussi qui a vendu son champ, demande une programmation. Dès le mois d'avril, il faut commencer. Qu'est-ce que je vais faire dans mon champ et comment il faut le faire? Il faut faire un programme de production. Ça devient comme une sorte d'entreprise. Et je vous conseille aussi d'aller visiter parce qu'à Maradi, il y a des producteurs privés sur des grandes surfaces qui font des activités. C'est-à-dire vous-même, vous pouvez visiter et partager les expériences des autres. Maintenant, vous venez vous asseoir et faire votre programme. Aussi, je dirais, il y a les informations météo. Donc, c'est souvent rare, mais il faut qu'on trouve un cadre vraiment pour permettre aux producteurs de valoriser cela. La date de semis, ce n'est pas n'importe quand qu'il faut aller semer. Il y a des périodes précises, vraiment du début de la campagne. Donc, l'information doit parvenir et vous devez voir quelle variété, quel type, quelle catégorie convient à votre zone. Des variétés à cycle court. Et maintenant, quels sont les fertilisants? Même la densité de semis. Le mil, on sait qu'on doit semer à 10 000 poquets à l'hectare. Et là, dans le champ, on retrouve déjà 3 000 poquets. Donc, tout est parti déjà pour un déficit. Et je voulais aussi réagir par rapport à à l'insécurité alimentaire. Moi, je crois qu'une chose est claire, en tout cas, je fais un appel à la sensibilisation. Il faut qu'on sensibilise les gens et qu'on relance la production locale, la consommation des produits locaux. Ça, c'est un créneau important. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire que les paysans roulent à perte. Quand vous prenez un champ, vous faites le compte d'exploitation, vraiment, à la fin de la saison, il est déficitaire. Donc, les gens roulent à perte. Tout simplement parce que la production est mal vendue. Alors, il faut qu'on trouve maintenant des façons de valoriser cette production. Donc, stimulons la consommation des produits nationaux. Ça, c'est vraiment une campagne qu'il faut faire. Et une fois que le producteur va avoir un revenu consistant de son champ, et c'est ça qui va lui permettre, un petit pilotage par l'aval, de revenir chercher les semences améliorées qu'il faut, acheter les matières agricoles. Ça doit se faire. On ne peut pas comprendre un pays aujourd'hui où, par exemple, l'huile d'arachide, je ne sais pas pour combien de milliards on achète chaque année, l'huile de cuisine, par exemple, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Alors qu'on a l'huile d'arachide que tout le monde ici aime bien et qui est de très bonne qualité et qui est une production nationale. Le riz aussi, c'est une question. Le mil, d'ailleurs, on ne le consomme pas. De plus en plus, même dans les campagnes, on retrouve que maintenant, à milieu rural, que le riz est en train de prendre de l'importance. Ça ne va pas. On m'a parlé des poulets qui viennent d'ailleurs. Comment voulez-vous qu'on avance alors qu'on a un potentiel? Donc, vraiment, il faut qu'on relance la production nationale. Il faut aussi qu'on développe la transformation. La transformation. Aujourd'hui, vous êtes à Maradi, vous cherchez le jus de mangue ou le jus de goyave, vous n'allez pas en trouver. Pourtant, Maradi, c'est une ville réputée pour vraiment ces productions fruitières-là.
Merci beaucoup. Professeur. Nous allons prendre également la réaction de Dr Assanou. Il y a un intervenant qui a parlé de la richesse du Niger en eau souterraine et qui voulait savoir comment revaloriser cette richesse en eau souterraine-là.
Merci, madame. Et effectivement, le Niger, c'est un pays qui est immensément riche en eau souterraine. Je parle du bassin de Zoulé-Menden qui couvre le 2/3 du Niger, dans lequel vous avez une grosse nappe phréatique qui peut aider à booster donc l'irrigation. Mais je pense que aujourd'hui, certains urbains, par exemple les Niamiens, sont édifiés que le désert nigérien n'est pas quand même un désert stérile. Parce qu'il y a des foires, des produits irrigués de la région d'Agadez qui sont exposés en plein centre-ville de Niamey. Et un jour, j'étais à côté de quelqu'un qui m'a dit que « Mais comment on peut produire de la pomme de terre à Agadez ?» C'est lié donc à ce potentiel que le Niger a. Et donc, le seul problème que je vois, en fait, c'est le coût et les moyens pour mobiliser cette eau. C'est ça qui freine un peu. On est toujours confronté au problème de pauvreté, au problème de niveau d'instruction. Oui. Donc, même aujourd'hui, si vous prenez la vallée de Goulbi-Maradi, le problème que le producteur rencontre, c'est les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour mobiliser l'eau, les moyens d'exure de l'eau. Donc, je pense que une fois que ce problème trouve une solution, tout à l'heure, notre collègue du ministère a parlé du gaz qu'on est en train de torcher sur le site de production pétrolière. Le gaz, c'est une alternative, c'est un carburant qu'on peut utiliser comme énergie pour mobiliser de l'eau. Il y a l'énergie solaire qui peut être aussi utilisée pour mobiliser cette eau. Je pense que ce problème, il faut qu'on arrive à un peu diminuer le coût de production de l'eau, le coût de l'énergie qu'on peut utiliser pour mobiliser l'eau. Et donc, en ce moment, on peut mobiliser cette ressource pour compenser donc le problème de perte de production lié au système pluvial.
Merci beaucoup, Dr Bill Hassanou. Dr Nuhu Jean-Gorzo, comment faire et que faire pour suffisamment impliquer la jeunesse de nos trois pays, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, dans le cadre de la recherche d'une réponse adéquate à l'autosuffisance alimentaire.
Alors donc, merci. Alors, comment impliquer la jeunesse dans la recherche de la sécurité alimentaire? Il faut s'inspirer de ce que les autres ont fait. Vous savez, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe était en situation de famine. Alors, pour résoudre ce problème, ils ont inventé ce qu'ils appellent la politique agricole commune. Donc, ils se sont mis ensemble, ils ont créé la politique agricole. Et l'un des dispositifs de cette politique, c'est qu'on forme des ingénieurs en agriculture, pas des ingénieurs agronomes. Attention, c'est deux choses différentes. Des ingénieurs en agriculture qui ont appris à cultiver la terre. Et maintenant, on les dote, on leur donne du financement à travers ce qu'on appelle la DJA, dotation jeunes agriculteurs. C'est des millions en francs CFA si on convertit. Sinon, c'est des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros qu'on donne à ces ingénieurs-là qui sortent pour aller s'installer en agriculteur dans les champs, dans des campagnes. Donc, comme ils ont étudié, ils connaissent la terre, ils connaissent le végétal, ils connaissent l'animal, ils connaissent tous les besoins de ces éléments-là pour produire, alors ils ont réussi à atteindre la sécurité, l'autosuffisance alimentaire en un rien de temps. Donc, on peut s'inspirer de ça pour former des ingénieurs en agriculture au lieu de former des ingénieurs agronomes qui sont destinés à concevoir. Et on a dit tout à l'heure qu'on a conçu tellement de choses qu'on peut remplir cet amphithéâtre avec les documents de conception. Comment produire des semences qui s'adaptent à la sécheresse? Alors, il y a deux voies. Une des voies, c'est comment produire des variétés qui vont échapper à la sécheresse. Là, la recherche a inventé des variétés à cycle court. C'est-à-dire on sème ça aujourd'hui, donc en 45 jours, c'est mûr donc avant que la sécheresse commence. Mais le problème que tu poses, c'est le problème de calendrier de culture. Les gens sèment à la première pluie. Or, malheureusement, entre la première pluie et la seconde pluie, il y a une grande sécheresse. Pour l'instant, il n'y a aucune variété qui supporte cette sécheresse-là. Donc, du coup, ça fane. Maintenant, la deuxième voie, c'est de trouver des variétés qui sont résistantes à la sécheresse, pas qui échappent à la sécheresse. Et pour ça, on utilise la technique de génétique moléculaire pour identifier les gènes responsables de la sécheresse et maintenant les introgresser dans des variétés qui sont adaptées au milieu local. Maintenant, la troisième question qui m'a été adressée, c'est la question de la fertilité des sols. C'est toujours Danetto qui l'a posé. Comment faire pour restaurer la fertilité de notre sol? Alors, il faut savoir que quand vous cultivez une plante, quand elle produit la biomasse, elle est composée de quatre éléments majeurs. Il y a le carbone, provenant de l'atmosphère, il y a l'azote, le phosphore et le potassium, et puis il y a des oligo-éléments qui sont en trace. Alors, ces éléments-là, azote, phosphore, potassium, ils sont prélevés dans le sol. Alors, quand à chaque année, vous prélevez l'intégralité de la biomasse, vous amenez à la maison, vous mangez, vous donnez à vos animaux, et que vous ne restituez pas, alors c'est inéluctable que vos sols s'appauvrissent. Or, si vous prenez uniquement la partie utile pour vous, les graines, si c'est le mil, le sorgho, les céréales d'une manière générale, et vous laissez les tiges, alors vous restituez une partie de la fertilité. Donc, une des voies, c'est de favoriser la restitution. La deuxième voie, c'est d'apporter de la matière organique. Parce que c'est la matière organique qui permet de restituer la fertilité des sols. Et la troisième voie, c'est d'apporter des engrais chimiques, mais conditionné par la présence de la matière organique dans le sol. Parce que quand vous apportez des engrais chimiques sur un sol faible en matière organique, alors ça va l'acidifier. Et même si vous avez des éléments minéraux dans votre sol, la plante ne peut pas les prélever parce que les conditions ne sont pas favorables pour leur utilisation.
Merci beaucoup, docteur Nou Jangorzo. Lala, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Mokhtar. Alors, nous allons partir pour la deuxième vague des questions. Nous allons prendre Haruna Abou Saïd, étudiant.
Je me réponds au nom de Haruna Abou Saïd. Ma question, c'est comment résoudre les problèmes de l'autosuffisance alimentaire dans les pays de l'AES?
Je réponds au nom de Alousseine Risse Moussa. Je suis membre du conseil de la jeunesse de la ville de Maradi. Donc, au Niger ou même dans le pays de l'AES, on constate une forte augmentation et de taux démographique. Puis la terre qu'on utilise le dû et le jour au lendemain. Donc nous souhaitons des propositions ou des stratégies de la part de nos débatteurs pour qu'on puisse utiliser les hectares qui restent et aussi de nous permettre de maintenir notre autosuffisance alimentaire. C'est ça la question. Merci.
D'accord, merci. On va donner la parole à présent au commissaire adjoint du mouvement des scouts du Niger pour sa question.
Vous avez traversé des kilomètres du Mali au Burkina pour arriver au Niger. Et ici au Niger, on a l'habitude de voyager, on voit des terrains. Des terrains, je ne suis pas agronome, je ne suis pas agriculteur, mais quand même, je me dis que ces terres, d'une façon ou d'une autre, elles sont exploitables. Maintenant, ma question, est-ce que l'État nigérien ou bien les États de l'AES envisagent-ils de mettre en valeur ces terres? Puisque nous avons des forêts, nous avons des terres. Bon, je me dis, est-ce que nos trois États envisagent-ils de mettre en valeur ces terrains?
À présent, Yajina Bani Mariama, qui est du mouvement scout aussi.
Bonjour à tous. Moi, c'est Yajina Bani Mariama, membre de l'Association des scouts du Niger. Et bonjour, chers conférenciers. Merci vraiment pour ce panel qui a été vraiment très, très instructif pour nous. Et maintenant, moi, ce que j'aimerais qu'on parle là-dessus, c'est le fait que, qui est là et qu'on ne mentionne pas, c'est le fait que la jeunesse maintenant, on est toujours un pote, on se met en tête qu'à chaque fois quand on finit les études et autres, on attend à ce que l'État nous engage, l'État nous emploie. On attend seulement à être dans les bureaux climatisés, rouler dans les voitures de luxe. Or, nos diplômés qui sont là maintenant, ils sont là juste assis à attendre à ce que cet État-là les embauche. Ils ne se dirigent pas vraiment vers la terre. Donc, ce qu'on doit vraiment, étant la majeure partie de la population, pour vraiment lutter contre cette insuffisance alimentaire, on doit vraiment booster ces jeunes-là à ce qu'ils retournent à la terre. Comment faire pour vraiment aider ces jeunes-là à avoir les terrains, à travailler la terre, jusqu'à ce qu'ils insistent les autres-là qui sont là assis à attendre à ce qu'on les embauche?
Voilà, moi, c'est Ibrahim Abouakar Moussa, et étudiant à l'université d'Anikodankoulou de Maradi. Sans trop tarder, je me lance directement pour poser mes questions. Pourquoi pas mettre en place des mesures de prévention pour contrôler les niveaux de l'eau et réduire les risques d'inondation, tels que la construction des digues, de barrages, des systèmes de drainage pour enfin réutiliser cette eau à notre avantage?
Voilà, Marina Mokhtar. La deuxième vague des questions, à vous, chers invités, pour les réponses.
Merci beaucoup, Lala Touré. Ousmane Abdou, il y a tout à l'heure un intervenant qui a posé la question au sujet des stratégies à mettre en place pour relever les défis de l'autosuffisance alimentaire dans les trois pays du Sahel, que sont le Niger, le Mali et le Burkina Faso.
Quoi que ce soit une question bateau, mais je crois que c'est ce qu'on avait discuté depuis ce matin. Mais dans le cas de l'AES, à mon avis, comme le professeur l'a dit, on peut aller faire la stratégie de l'approche bassin.
La stratégie de
l'approche bassin, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, pour le cas du Niger, quelle est la céréale qui domine et qui donne bien? Et on peut engager, on donne mandat au Niger pour dire voilà, nous, c'est l'option qu'il faut aller donc dans le cadre de la production, au même titre que le Mali et le Burkina. Voilà un peu un aspect. Mais cela ne veut pas dire qu'on va laisser les autres cultures indépendamment donc de cette production. Et là, nous devons passer à l'intensification comme les uns et les autres en ont dit. Et je crois que dans le cadre du Niger, il y a un certain nombre de stratégies qui étaient développées pour un peu surmonter donc cette question d'insécurité alimentaire. Indépendamment chaque année du programme de soutien qu'on élabore, donc pour soutenir les villages qui sont déficitaires. Par exemple, actuellement, l'État est en train d'aller vers la mise en place des maisons de paysans au niveau des communes. Là, c'est en fait une plateforme de service qui puisse permettre de disponibiliser donc tous les produits alimentaires et tous les matériels, tous les intrants possibles de façon donc à rendre
beaucoup plus accessible ces produits-là à l'utilisateur. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, on avait élaboré, c'est pourquoi à un moment donné, j'ai dit, on doit cesser d'écrire. On a élaboré une stratégie d'achat locaux d'aliments, parce que tout à l'heure, il y a vraiment un intervenant qui a parlé de bradage. Et là, il y a, et l'État devait aller vers, installer donc des centres de commercialisation et directement alimenter les magasins de l'OPVN. Et ça permet de sécuriser le producteur par rapport au bradage. Et il y a aussi, avec l'appui de certains projets, donc des systèmes de warrantage qui sont mis en place et qui permet au producteur d'amener sa production et de prendre au prix courant l'équivalent de sa production, mais qu'il la conserve jusqu'à 6 mois. S'il a l'argent, il rembourse et il prend sa récolte et il va, il consomme. Ou bien, s'il n'est pas nécessiteux, il peut mettre sur le marché et moyennant donc un taux qu'il a de stockage et de conservation qu'il donne à l'organisation. Donc, il y a eu des mécanismes qui ont été testés et qui sont en cours et qui peut-être l'information a manqué. Et là, c'est l'occasion d'appeler nos médias d'aller vers. Parce que je peux vous donner l'anecdote, peut-être certains l'ont vécu. On avait un nutritionniste qui vient au village pour la question de malnutrition. Et il commence à... Bon, il y a des vieux, hein? Donc, sous l'arbre à palabre, il prend un œuf et dit, voyez-vous, ce œuf-là, il dépasse une tia. Une tia, c'est une mesure de 1000. Mais à moins d'une minute, tous les vieux ont quitté. Ils ont dit que l'État commence à envoyer des personnes qui, apparemment, il y a problème. Comment on peut comparer un œuf à une mesure du 1000? En fait, alors que ça, c'est un problème de communication. C'est pour dire qu'en termes de valeur nutritionnelle, donc là, parce qu'on sait que bon, le 1000, c'est beaucoup plus du glucide, alors que l'œuf, il a quand même un certain nombre de minéraux et qui puissent permettre de renforcer l'état nutritionnel d'un enfant ou en tout cas de celui qui consomme. Donc, voyez-vous, il y a un déficit d'information, un déficit de communication sur lequel je crois l'AES aussi doit mettre un pôle d'information à l'endroit donc, de nos utilisateurs, des producteurs, de façon à permettre vraiment de mettre en œuvre toutes les technologies émises par la recherche, par les universités et même par les citoyens ordinaires. Voilà ce que je peux dire par rapport à certaines questions. Sauf si,
merci beaucoup, Abdou Ousmane Abdou. Professeur Ibrahim Bawa, tout à l'heure, un intervenant a posé la question à savoir comment faire pour mettre en œuvre, pour mettre en valeur les terres agricoles jusque-là inexploitées.
Merci encore. Je remercie toujours les organisateurs, en tout cas de cette conférence. C'est un cadre vraiment très intéressant de communication. Je pense que des débats que j'ai suivis, des questions, il y a une attitude que j'ai notée. De toute façon, la population agricole est majoritairement formée des jeunes. Et je pense qu'il y a un message qu'on doit maintenant envoyer vers les jeunes. Il ne suffit pas de s'asseoir et de dire comment faire la sécurité alimentaire, comment arriver là-bas. Je pense qu'il faut vous dire que vous êtes les principaux acteurs. Le décor est en train d'être planté, mais il faut que vous parliez. J'apprécie beaucoup la question ou bien l'intervention de mademoiselle ou madame Nabani, qui a vraiment sur l'insistance pour que les jeunes s'impliquent. Tous ces programmes-là, c'est pour vous. Donc, il faut qu'on ait les jeunes qui soient à l'avant de toutes ces initiatives-là. Vous êtes formés, de toute façon, maintenant, vous êtes enseignant, vous pouvez produire quelque chose et diversifier. Vous êtes ingénieur agronome, vous devez au moins être dans la production. Même si vous trouvez un poste quelque part, il faut que vous soyez dans la production. Donc, ça doit être un mouvement général, vraiment de soutien à la production et de production et de la diversification de la production. Et quand vous êtes dans une zone, vous devenez un acteur important, vous devenez une sorte de miroir pour vos communautés. Et c'est comme ça vraiment que le message va se transmettre. Donc, il est temps d'impliquer la jeunesse et de les réveiller et vraiment de les mettre sur la voie, vraiment d'entrer dans cette... J'ai vu au Burkina, par exemple, des jeunes qui ont des animaux, qui ont des bovins, ils font le lait, ils vendent la viande. Il y a des petites activités qui peuvent leur permettre d'avancer. Maintenant, deuxième chose, c'est le concept là d'agroécologie. Il faut qu'on le mette en application à l'échelle nationale dans nos 3 pays. C'est un concept qui a des principes, la diversification de la production, la promotion en tout cas de tout ce qu'il y a comme technologie, sans pesticides et sans engrais, est vraiment, donc c'est tout un concept qui permet de produire, d'avoir des espèces fruitières dans un champ, en même temps d'avoir des légumes, d'avoir beaucoup de, alors vraiment pour équilibrer, parce que le champ, la monoculture qui est actuellement en train d'être faite, ne répond pas, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas rentable en tant que tel. On a fait plusieurs comptes d'exploitation. Maintenant aussi, pour les jeunes, l'autre message, c'est le développement des activités d'agro-business, de fermes de ceci, de cela, de fermes intégrées de plusieurs choses. Et maintenant aussi, le business, essayer comment on peut amener des choses. Donc, on a besoin d'appui pour vraiment les entreprises des jeunes, les entreprises privées, le business, pour que vraiment l'entrepreneur agricole soit effectif, surtout dans la transformation. Vous avez bien vu, le mil aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire du mil? Pas grand-chose. Alors qu'il y a des recettes, et maintenant, on peut les apporter, assurer l'alimentation des grandes villes. Donc là aussi, c'est un créneau important qui mérite d'être appuyé. Comment amener 50% des produits transformés sur la base de la production agricole nigérienne ou de la zone de l'AS dans les villes? Donc là, au Burkina, par exemple, j'ai constaté que c'est assez élevé, parce que vous ne pouvez pas faire une réunion, une pause café sans qu'il y ait des produits burkinabés 100%, que ce soit les jus, que ce soit les repas. Au Mali aussi, j'en ai vu. Au Niger aussi, on en fait, mais il faut qu'on intensifie cela, vraiment, pour qu'on puisse faire la place aux jeunes dans l'entrepreneuriat agricole et surtout donner une issue pour valoriser nos productions agricoles. J'insiste toujours sur le pilotage par l'aval. Si on arrive à produire beaucoup, si on arrive à vendre, eh bien, ce qu'on a de bénéfices, on retourne pour l'investissement. Maintenant, pour la question de la terre, il y a une production hors sol qui est possible. Il y a aussi des productions modernes, des petites serres qu'on peut acquérir sur des petits terrains. Et maintenant, par exemple, la tomate, vous pouvez avoir des rendements de 13 tonnes de tomates à l'hectare dans une serre. C'est bien possible. Donc, il faut qu'on s'avance aussi vers ces techniques de production avec le goutte à goutte. Alors, et la location de terres est aussi nécessaire et possible. Donc, on peut voir aussi des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs qui peuvent se lancer et dans ce genre d'activité-là. Voilà,
merci
en tout cas,
beaucoup,
moi, les messages, c'est surtout les jeunes, vraiment, c'est vous les acteurs principaux, c'est vous la force principale. Et j'encourage d'ailleurs le studio Kalangou et la Fondation Irandel d'organiser d'ailleurs d'autres émissions autour des jeunes où certains qui ont des initiatives déjà prometteuses puissent venir donner des exemples aux autres.
Merci beaucoup, professeur Bawa. Nous prenons à présent la réaction de docteur Assanou. Quel est votre avis concernant l'implication des jeunes dans l'agriculture, la production agricole, notamment l'accès aux terres?
Merci. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, le problème foncier est dominé par le système traditionnel où, si vous prenez dans les villages à l'échelle de ménage, vous avez le chef de ménage qui détient toutes les terres. Les autres contribuent, que ce soit les enfants, les petits-enfants, tout le monde contribue aux travaux du même champ. Il n'y a que des rares cas où on voit. Comme on le dit, je veux utiliser des termes en Hausa. Le grand champ familial, ça s'appelle Gandou. Et deux fois, il y a quelques jeunes qui arrivent à accéder à ce qu'on appelle des gamana. C'est des lopins de terre qu'on donne à quelques jeunes ou femmes pour exploiter. C'est ce genre de modèle qu'on a. Superposé à cela, aujourd'hui, comme le professeur Bawa a souligné, vous avez le problème de micro-foncier. Avec la croissance démographique qui est très forte au Sahel, vous savez que le Sahel, c'est quand même un hot spot démographique. La disponibilité de terres par actif, ça menuise de champ en champ. Une des réponses, c'est d'arriver à intensifier. Et donc, la réponse de l'accès aux jeunes sur ces terres se trouve au niveau de l'intensification. L'intensification, c'est quoi? C'est qu'il faut arriver à diversifier des systèmes de production sur des petites unités. C'est comme ce que le professeur a dit. Si vous avez dans une famille où le père a un jardin de manguier ou de goyavier, lui, il s'intéresse à la production fruitière. Le jeune à côté peut mettre des ruches dans ses arbres. Lui, il va se spécialiser dans la production du miel. Dans le jardin, il peut mettre des bassins de production de poissons. Il va se spécialiser dans la pisciculture. C'est comme ça que vous arrivez a un peu à s'affranchir de la disponibilité de l'air. La terre cultivable, elle est rare et elle s'amenuise de temps en temps. Et vous avez aussi de temps en temps des problèmes d'expropriation. Une fois que le chef de ménage voit qu'il ne s'en sort pas, c'est comme ce que le collègue vient de dire, hein, on n'arrive pas à produire suffisamment, on vend tout. Et on devient des ouvriers agricoles dans son propre terroir.
Merci beaucoup, voilà. Docteur Bill. Nous allons donner la parole à Docteur Nuhu Jangorzo qui va répondre à une préoccupation soulevée par un intervenant qui demande la question est de savoir comment prévenir les inondations au Sahel.
Comment prévenir les inondations au Sahel? Alors, premièrement, il y a des modèles qu'on utilise aujourd'hui pour identifier les zones inondables. Donc, il y a des modèles
à travers la cartographie.
Oui, bon, c'est des modèles qui avec base cartographique, mais c'est des modèles de simulation mathématique. Donc, on peut savoir, par exemple, quelles sont les zones dans lesquelles on peut avoir des risques d'inondation. Donc, c'est des modèles de logique qui permettent de ça. Donc, une fois ces zones identifiées, alors il faut éviter à ce que les gens construisent dans ces zones, ou bien fassent de la production qui n'est pas adaptée à un surplus d'eau. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut faire des ouvrages de prévention, comme par exemple des digues. Vous avez vu Niamey, qui est au bord du fleuve. On a fait des digues de protection pour éviter à ce qu'une partie de la zone soit inondée. Donc, je pense qu'avec ces deux solutions, ça peut aider. Après, maintenant, la troisième idée, c'est que au cas où l'emplacement humain est déjà là, dans une zone inondable, alors il faut avoir un mécanisme pour informer les gens des risques d'inondation pour pouvoir évacuer les gens afin de réduire les dégâts. Mais je pense qu'il y a d'autres questions qui ont été posées. Je pense que ça mérite d'être répondu. Par exemple,
rapidement.
Voilà la question sur la mise en valeur des terres. Il a dit, quand tu circules de Niamey à ici, ou bien de Ouaga à Niamey, tu vas avoir beaucoup de terres non exploitées, ce n'est pas agricole. Mais ça joue un autre rôle, donc écologique. Si on détruit toutes les forêts, on transforme en culture, mais on va avoir d'autres problèmes de sécheresse et d'autres problèmes donc de désertification. Donc, ça joue un rôle extrêmement important. Même si on a les capacités de mettre en valeur toutes les terres, on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas intérêt à le faire parce que ça va créer d'autres problèmes et la solution qu'on cherche, on va avoir l'effet contraire. Donc, il y a une autre question sur comment faire en sorte que les producteurs tirent meilleur profit de leur production. Il a dit que les gens produisent, mais juste à la campagne, pendant la récolte, ils vendent tout et après, ils deviennent des gens vulnérables. Alors ça, c'est un problème très sérieux partout, notamment ici au Niger, parce qu'en fait, les gens sont très pauvres. Il y a des gens actuellement, ils vivent de crédits. C'est-à-dire ils ont déjà mangé au moins 50% de leur production qu'ils n'ont pas encore produite. Donc c'est tout à fait, ils n'ont pas d'autre choix que de brader cette production-là pour faire face à leurs pauvres besoins. Donc la solution, c'est de faire en sorte que ces gens-là ne vivent pas exclusivement de l'agriculture. Parce que tant qu'ils vivent de l'agriculture, et vu les sols qui sont très pauvres, la production qui est très minime, alors ils ne pourront pas s'en sortir. Donc il faut leur trouver d'autres moyens de subsistance pour ne pas dépendre exclusivement de l'agriculture.
Merci beaucoup, Dr. Nuhu Jangorzo. C'est la fin de ce forum qui a eu pour thème « Comment relever le défi de l'autosuffisance alimentaire dans les pays de l'Alliance des États du Sahel ?» C'est une coproduction des trois médias de la Fondation Hirondelle, le studio Tamani du Mali, le studio Kalangou du Niger et le studio Yafa du Burkina Faso, réalisé à Maradi, la capitale économique du Niger. Marina Traoré du studio Yafa, nous avons eu l'immense honneur de recevoir d'illustres invités à Maradi.
Effectivement, Mokhtar, nous avons reçu M. Ousmane Abdou, ingénieur agrométrologue au ministère de l'Agriculture. Était également sur ce plateau le professeur Ibrahim Bawa, enseignant-chercheur à l'Université de Maradi. Docteur Nourou Jean Gorzo, enseignant-chercheur à l'université d'Andiko Dankulodo de Maradi, et Docteur Bill Assanou, enseignant-chercheur à l'université d'Andiko Dankulodo de Maradi également. Merci à tous nos invités.
Merci également au public, n'est-ce pas, Lala Touré?
Mokta. Grand merci à ce chaleureux public qui, avec les échanges, ont vraiment fructifié ces débats. Je rappelle que nous étions avec les étudiants de l'université de Dandiko Dankulodo de Maradi, les membres du Conseil régional de la jeunesse de Maradi, les membres du mouvement Les Scouts du Niger, les collectifs régionaux des organisations de la société civile et syndicats pour la sauvegarde de la patrie de Maradi. Applaudissez pour vous, s'il vous plaît.
Oui, il est là, Touré. Merci également à toute l'équipe technique radio et vidéo du studio Kalangou qui a réalisé cette coproduction. Rendez-vous très prochainement.
Il y a débat.